La fabrique politique. Salut à toutes, salut à tous, c'est la fabrique politique sur Radio Campus Grenoble. Une émission qui accompagne maintenant le déconfinement. Une émission toujours fabriquée à la maison, mais qui s'efforce de prendre un peu de recul et puis d'ouvrir des perspectives sur l'avenir. Aujourd'hui, on va le faire avec le professeur Stéphane Gaudry, qui s'occupe d'un service de réanimation en Ile-de-France et qu'on avait déjà reçu au début de la crise, au début du confinement. Et puis on recevra bien sûr Tom le fact-checker, qui lui ouvrira l'avenir de l'Union européenne. La fabrique politique spéciale déconfinement, c'est parti. Vous êtes dans la fabrique politique, on vit tous tranquillement le déconfinement et c'est l'occasion pour nous de prendre des nouvelles du professeur Gaudry, de Stéphane Gaudry qui avait accepté de répondre à nos questions au début du confinement en plein rush ou montée en charge des services de réanimation. Bonjour Stéphane, est-ce que tu peux déjà nous rappeler quel est ton métier s'il te plaît ?
Alors, je suis professeur de médecine intensive et réanimation et donc mon métier consiste à la fois à la prise en charge des patients en réanimation, mais également à l'enseignement de la médecine et à la recherche clinique, puisque c'est une partie importante de mon activité.
Alors, on va essayer d'aborder ces deux aspects. Peut-être commencer quand même par un point de situation. Dans ton service, dans un hôpital francilien à Bobigny, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu vois aujourd'hui, tous les jours ? Où est-ce qu'on en est, quoi ?
Alors, depuis la décrue qui a eu lieu ces dernières semaines, l'activité a beaucoup diminué, en tout cas dans l'hôpital où je travaille. Ça a permis de libérer des équipes qui étaient venues en renfort nous aider d'autres régions. Il y avait eu d'autres régions, notamment des collègues qui étaient venus de Nantes pour venir en renfort. Hein. On était parti de 16 lits de réanimation, on était monté à 48. Donc, bien entendu, avec notre équipe, on ne pouvait pas soutenir une telle activité à moyen constant. Et donc, il y a eu des renforts à la fois du côté du personnel médical, mais également du personnel non médical, donc les aides-soignants et les infirmiers et infirmières, qui également étaient renforcés. Donc là, on a pu revenir à une situation qu'on va qualifier de quasiment normale. Puisque
c'est-à-dire 16 lits à nouveau ou...
16 lits de réanimation. Enfin, on reste avec... Avant, on était à 16 lits de réanimation et 8 lits de soins continus. Et là, on est à... les 8 lits de soins continus font plutôt office de réanimation, donc de soins un petit peu plus lourds que de soins continus. Donc, on est à 24 lits, mais en gros, par rapport à notre activité habituelle, c'est relativement comparable.
Et les 24 lits sont occupés par des malades du Covid ou pas du tout ?
Alors, pas du tout. On a 16 lits qui sont réservés à des malades Covid négatifs et on a... les 8 autres lits où on fait encore des patients qui sont atteints de Covid, on prend en charge ces patients-là, mais c'est plutôt en train de diminuer encore et là on est sur des patients qui sont là depuis plusieurs semaines, hein, qui étaient là pendant la grosse vague et qui encore ont besoin de nous pour on va faire ce qu'on appelle du sevrage de la ventilation mécanique, qui parfois est très long.
Ça veut dire qu'en termes de flux des nouveaux patients Covid qui arrivent
Le flux depuis à peu près 10 jours est quasiment nul. Quasiment nul. Voilà, on reçoit encore quelques malades, mais de manière très exceptionnelle et qui, en général, viennent alors qu'ils ont un diagnostic de Covid, mais ils n'en ont pas les signes de gravité. Ils sont pris en charge pour un autre problème, mais on les prend dans cette unité justement pour préserver les autres malades d'éventuelles transmissions croisées.
Est-ce que tu sais si c'est à peu près représentatif de ce qui se passe dans l'ensemble de l'Île-de-France, cette situation-là, c'est-à-dire quasiment plus de nouveaux entrants ?
Oui, c'est tout à fait représentatif. Hein. On est tout à fait, on est en contact avec les collègues de différents groupes hospitaliers d'Île-de-France et tout le monde constate exactement la même chose.
Petite question technique, parce qu'on en avait beaucoup parlé à un moment. Qu'est-ce qui se passe au niveau des respirateurs ? Parce que j'imagine que du coup, il y a eu un afflux de respirateurs. Maintenant, on les utilise plus, on les met en stock. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors oui, il y a eu des respirateurs qui ont été commandés, qu'on a reçus, des respirateurs aussi qui ont été mobilisés, qui étaient dans d'autres structures. Donc, en effet, ces respirateurs ne sont plus utilisés et ils sont gardés en réserve puisqu'ils peuvent être à nouveau mobilisés si jamais il advenait, même si c'est peut-être moins probable, mais il advenait que nous ayons à nouveau affaire à une vague importante de patients en arrivée en réanimation. Donc, ils sont en réserve, on les garde pour l'instant.
C'est du matériel qui ne se périme pas ?
Alors non, enfin les respirateurs se périment très peu, hein, c'est-à-dire que c'est de la maintenance, mais voilà, c'est comme si vous voulez, si vous achetez une voiture, vous devez faire un peu de maintenance, mais ça peut durer de nombreuses années si vous entretenez correctement le matériel.
L'atmosphère un petit peu maintenant dans l'équipe, on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, après le rush, comment vivent vos équipes aujourd'hui, c'est un sentiment de fatigue, de soulagement, comment ça se passe?
Alors les équipes ont pu quand même se reposer un petit peu justement depuis quelques semaines, et donc c'est vrai qu'on sent une atmosphère, je dirais plutôt joyeuse, c'est-à-dire que les équipes sont vraiment contentes du travail accompli, parce que je pense qu'il y a une certaine fierté d'avoir réussi à faire face avec les moyens qu'on avait à cet épisode absolument historique, hein. Et puis il y a le fait de d'avoir peut-être une activité plus comparable à la normale, qui fait que les gens sont plutôt joyeux, je dirais, de reprendre une vie à peu près normale, je dirais. Donc voilà, il y a pas ce, on avait peut-être un petit peu l'impression qu'il allait y avoir un petit peu de, on va dire, de passage un peu difficile sur le plan psychologique et nerveux. Pour l'instant, nous, c'est pas ce qu'on ressent, en tout cas dans mon équipe, hein, je sais pas pour les autres, mais dans mon équipe, les gens sont plutôt heureux et fiers du travail accompli.
Est-ce qu'il y a plutôt une forme de confiance en l'avenir, dans le sens où on craint plus ou moins une deuxième vague? Comment on en est par rapport à cette appréhension-là?
Alors, c'est chacun un petit peu à sa vision des choses. Ouais. C'est optimiste ou pessimiste. Moi, je pense qu'il faut rester juste vigilant. C'est-à-dire, il faut faut se dire qu'il faut essayer de revenir à une activité, une vie à peu près normale, tout en respectant bien sûr toujours les gestes barrières. Il faut aussi se dire qu'il y a une possibilité, et ça fait partie des hypothèses, qu'il y ait à nouveau des patients qui soient infectés, à nouveau des patients en grande quantité. Il faut se tenir prêt. Maintenant, c'est sûr que là, on est un peu dans la phase déconfinement où tout est beau et tout est léger. Mais il faut quand même rester vigilant. Et nous, en tout cas, professionnels de santé, on sait très bien que personne ne peut prédire l'avenir à 100%, même si certains s'en targuent. Il faut rester sur ses gardes.
Tu veux dire que vous êtes vigilant, mais vous allez quand même sur les terrasses des cafés?
Alors, on est vigilant, mais en effet, on va éventuellement sur les terrasses des cafés qui viennent de rouvrir en Île-de-France. Ouais. Et moi, pour la première fois aujourd'hui, je suis allé sur une terrasse en faisant attention, hein, qui était une terrasse tout à fait adaptée, on va dire, à notre vie un peu différente d'avant le confinement.
Juste une dernière question avant de basculer sur les aspects recherche qui occupent beaucoup les médias en ce moment. Par rapport à cette histoire du Ségur de la santé, la dénomination, du point de vue du citoyen moyen, j'avoue, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. On voit des grands principes plutôt positifs, on imagine. Tu saurais nous décrypter un peu mieux les deux, trois enjeux du Ségur ou pas?
Il y a plusieurs enjeux dans le Ségur. En tout cas, pour l'instant, ce que ressentent les professionnels, c'est que pour l'instant, ça reste, comme bien expliqué, des idées, hein, qui sont mises sur le papier. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'il en sortira. Maintenant, dans les grands principes, j'en retiendrai un notamment qui me paraît hyper important, qui est de rendre à nouveau le travail au sein de l'hôpital public attractif, et en particulier pour les personnels non médicaux, donc les aides-soignants, les aides-soignantes, les infirmières, les infirmiers, qui doivent absolument avoir une revalorisation de leur salaire, hein, tout simplement. Parce que
crise des vocations là-dessus ?
Il y a une crise des vocations qui est énorme, hein, c'est-à-dire que les jeunes qui arrivent ne restent que très peu de temps dans ce domaine-là. Travailler en réanimation dans le secteur public, il faut imaginer que c'est travailler le jour, la nuit, avoir des horaires décalés 2 mois sur 4. C'est très très compliqué, hein, quand vous voulez vous occuper de vos enfants. Infirmier ou infirmière en réanimation, c'est un truc vraiment dur. Alors quand on voit leurs salaires qui sont franchement pas dignes du travail qu'ils réalisent, automatiquement vous avez une crise des vocations et vous avez beaucoup moins de personnes qui viennent vous porter renfort dans vos équipes. Donc ça il faut absolument le renforcer, il faut à nouveau qu'on soit attractif et que l'attractivité soit pas juste basée sur le fait que on soit convaincu que le service public est utile. On est tous convaincus que le service public est utile, mais il y a un moment, il faut aussi rendre un petit peu la monnaie au personnel et en particulier aux gens qui sont le moins payés à l'hôpital.
Donc tu penses que c'est quelque chose que le gouvernement va mettre véritablement sur la table à cette occasion, c'est
alors être... le mettre sur la table, c'est sûr qu'ils vont le faire. Maintenant, ouais. quelles seront les décisions qui seront prises? Ben, on les attend, puisque c'est ça qui va être le plus important, c'est la décision prise. Ce qui avait été demandé initialement, hein, c'est une revalorisation assez nette des salaires des infirmiers et des infirmières, qu'il y ait aussi une revalorisation de salaires d'autres personnels hein, qui sont peu payés, mais surtout qu'il y ait des moyens qui soient donnés à l'hôpital public pour se développer. Hein, c'est-à-dire être en capacité de faire face à une demande de plus en plus importante de médecine de grande qualité et de grande technicité. Les citoyens le demandent, ça a un prix, et donc il faut investir dans le secteur public pour faire ça. Il y a enfin une troisième chose, c'est la gouvernance. Depuis de nombreuses années, on avait déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler il y a une petite année ensemble. Le pouvoir, entre guillemets, décisionnel dans l'hôpital était donné aux administratifs suite à la loi HPST. Et on a vu que, malheureusement, ça avait eu des conséquences, en particulier une gestion purement, on va dire, financière de l'hôpital public. Et ça a eu des conséquences, malheureusement, néfastes pour l'hôpital. Il faut rééquilibrer les choses, redonner du pouvoir au côté médical, en donnant la possibilité aux cadres de santé, aux personnels infirmiers, aux médecins, de s'exprimer sur comment ils voient l'organisation de l'hôpital.
Quand tu dis ça, c'est une conviction de ta part et quelque chose qui est porté par le corps médical, ou c'est quelque chose qui est quasiment de l'ordre de l'acquis, le fait de revenir sur les principes de la loi HPST, sur cette gouvernance administrative, sur éventuellement la tarification à l'acte? Tu penses que ça, c'est bon, c'est parti, ou ça reste encore... quelque chose sur lequel il faut convaincre?
Je pense que c'est quasiment parti. On a vu récemment, là, il y a quelques jours, l'assistance publique revenir sur une tradition importante, enfin revenir à cette tradition-là, qui était de nommer un médecin au sein du comité de direction restreint de l'assistance publique. Ce n'était plus le cas depuis un certain nombre d'années. Et là, à nouveau, on a le professeur Catherine Pogam qui a été nommée dans ce comité restreint de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et donc, je pense que c'est une très bonne chose. C'est déjà un signal comme quoi les choses sont en train de changer.
Eh ben, on suivra ça avec attention. On va faire une petite pause musicale, Stéphane, et on se retrouve juste après pour parler recherche.
Avec plaisir.
What music they make.
Today, we're gonna speak on the subject of lies. You know, when we think about lies, we think about cheaters, deceivers, con artists, anything in that vein. But the main thing that they have all in common is fear. Just think about it.
Liar, liar, pants on fire. Hang your laundry on the wire. Little money in your pocket and some lessons on the kid. If you wanna rap free, you better find another way.
Check it out. Dug yourself in a hole, but you can't find a way to get out now. 6 feet in the ground, ash to ashes, but you can't climb out. They say if it's done in the dark, it's gonna come to light. Maybe hidden for a while, but rises fully to plain sight. The naked eye won't see it all. Hope they believe it all. You fiending more, but when they keep you peeping, you proceed to fall. Turn the other cheek, you hope that you can sleep it all.
Wake up in the morning quiet, but you dreamed applause. You be smiling outside, but inside you just feel appalled. The devil is a lie, look in the mirror, see the cause. Mary, Mary, quite contrary, lifestyle contradicted. Said you do it for the pleasure, don't care about the business. But I know it ain't my business, so I throw these middle fingers up. Read between my ring and index finger, I don't give a fuck. Liar, liar, tell me what it is you trying to be. I'll listen to your story, but promise you ain't fooling me. About the phonies, the fabricators, you know, the little tricksters out there. We just wanna chill out with all that lying, you know what I mean? Because the truth will set you free. You know what I mean? We just gonna fade out.
Vous êtes toujours dans la fabrique politique. On a aujourd'hui un invité exceptionnel, le professeur Stéphane Caudry, professeur de médecine de réanimation à l'hôpital de Bobigny. Stéphane, on va maintenant parler de l'aspect recherche de ton métier. Alors, on en parle parce que c'est l'actualité aussi qui le veut, avec ces débats, voire ces polémiques infinies entre... on a l'impression que finalement les chercheurs se disputent un petit peu entre eux, mais j'imagine que c'est plus compliqué que ça. Peut-être pour démarrer le sujet, tu as signé une tribune dans Le Monde datée d'aujourd'hui, je crois, qui s'appelle « La médecine ne relève pas d'un coup de poker » et qui est signée par plus de 1800 soignants et chercheurs. Est-ce que tu peux nous, peut-être pour commencer, du coup, nous dire quel est le sens de cette tribune ?
Alors, d'abord le contexte. Hein, le contexte, c'est que, en effet, comme tu l'as bien précisé, il y a depuis quelques semaines, quelques mois même, une de vives polémiques au sein de la médecine et de la recherche, et beaucoup d'instrumentalisation, on va dire, à des fins personnelles. Et donc, nous souhaitions, avec de nombreux chercheurs depuis de nombreuses semaines, en tout cas faire part de notre point de vue sur le sujet, et en particulier sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a eu une crise sanitaire que nous devons revenir en arrière, de 50 ans en arrière, sur la qualité de la recherche médicale et sur la qualité de la médecine, sous prétexte que nous serions en situation de, entre guillemets, de guerre sanitaire. Donc ça, bien entendu, nous nous y opposons farouchement. Et donc, nous souhaitons que les efforts qui avaient été faits depuis plusieurs années pour avoir une recherche de qualité, pour éviter justement des scandales sanitaires, que cette recherche de qualité soit remise en avant et qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur l'instinct ou les hypothèses qui seraient des réponses définitives à certaines questions médicales.
Alors, si on reprend dans l'ordre, tu dis que les choses avaient bougé ces dernières, peut-être décennies, sur la qualité et la rigueur de la recherche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 60, 80, 100 ans en arrière, on jouait un peu aux apprentis sorciers, et puis que ça s'est un petit peu discipliné ?
Ben oui, tout à fait. Il y a eu, au fur et à mesure des années, ce qu'on appelle de la méthodologie. Hein. Je pense que c'est à peu près le cas dans tous les domaines de la science. La science, avant, on va dire, dite de recherche clinique, où la médecine était peu investie par justement cette recherche de la qualité et de la méthodologie. Et depuis 20, 30 ans, eh bien, nous avons fait le maximum pour justement être au plus près de la qualité pour avoir des réponses, non pas définitives, puisque la caractéristique même de la science, c'est de se remettre en question, et ça a été oublié par beaucoup, par certains en tout cas ces derniers temps, mais pour avoir des réponses, on va dire, avec une certaine solidité. Et ça a été l'avènement de ce qu'on a appelé l'evidence-based medicine, en anglo-saxon, c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves. Et ce qui change beaucoup, c'est que quand avant, c'était plutôt ce qu'on appelle l'eminence-based medicine, c'est-à-dire c'était les experts qui donnaient leur avis, même s'ils n'avaient aucun fait. C'est un peu le mal imaginaire. C'est un peu, si vous voulez, l'idée qu'il y a 30 ou 40 ans, le chef de service arrivait dans son service, expliquait que dans son service, c'était comme ça qu'on soignait les malades, et que ce n'était pas autrement, et qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas à discuter et tout le monde faisait pareil. Alors, les choses ont changé puisque maintenant, si vous arrivez dans votre service, moi personnellement, si j'explique à mes équipes les plus jeunes que moi que c'est comme ça qu'on va faire parce que voilà, ils ont tout à fait la possibilité de me dire bah, attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut en discuter, est-ce qu'on peut en débattre parce que la
ils vont recherche. Dire, sors-moi tes données brutes.
Exactement. Quelles sont les données? Pas nécessairement les données brutes, mais en tout cas, quelles sont les données dans la littérature? Et donc, c'est ça qui fait le débat scientifique, c'est ça qui fait la richesse de notre métier, et c'est ça qui fait qu'on est sorti un petit peu, même si malheureusement, on en a gardé quelques séquelles, du mandarina où il y en avait un qui décidait pour tout le monde. C'est bien entendu différent, et c'est pour ça, si vous voulez, que les dernières années ont vu émerger un énorme progrès en ce qui concerne des grands domaines de la médecine, comme la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, la prise en charge des infarctus du myocarde, la prise en charge des pathologies cardiovasculaires. Toutes ces améliorations de la prise en charge sont liées, en fait, à l'amélioration de la qualité de la recherche clinique et en particulier de la méthodologie. Et si nous n'avions pas eu ça, nous n'aurions pas les résultats que nous avons actuellement, qui ont nettement progressé par rapport à quelques années.
Ça, j'entends, mais il y a quelque chose qui vient perturber le débat depuis longtemps, hein, qui est la notion de biais du fait d'intérêts économiques cachés, de lobbying, du jeu, des labos, etc. Et donc,
ouais.
Il y a le biais dont tu parles, qui était le biais du mandarina, le biais du sachant tout-puissant qui va imposer son point de vue parce que c'est lui ou parce que c'est elle. Mais il y a aussi cette histoire du biais des lobbies cachés. Et on a l'impression que ce biais-là, les progrès méthodologiques n'ont pas réussi à lui tordre le cou.
Alors, c'est complètement vrai. Il y a des biais en particulier liés à des intérêts financiers de grandes boîtes pharmaceutiques, mais ces biais-là sont tout à fait en fait maintenant accessibles justement à la critique, puisque il n'est pas possible désormais de publier dans une revue scientifique internationale sans avoir déclaré des conflits d'intérêts potentiels, comme par exemple travailler pour une grande entreprise, etc. En fait, ce qui s'est passé ces derniers jours là avec cette affaire qui nous tourne autour depuis des semaines, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine, c'est que les personnes qui ont défendu ce traitement-là, et pourquoi pas le défendre, le problème c'est qu'ils n'avaient pas d'argument scientifique très fort, mais pourquoi pas le défendre, ont sous-entendu que ceux qui disaient que peut-être l'hydroxychloroquine était inefficace avaient des conflits d'intérêts. Ils se trompent, ouais. Moi personnellement je n'en ai aucun, et en plus il ne faut quand même pas être, il faut pas être naïf, l'hydroxychloroquine n'est pas fabriquée par un petit artisan au coin de votre rue. Elle est fabriquée par une grande entreprise pharmaceutique qui s'appelle Sanofi. Donc, c'est un faux argument pour ce débat-là. Par contre, c'est un vrai argument pour la science. Et en effet, souvent, la communication peut être modifiée. Ouais. La communication peut être modifiée justement à cause de ces intérêts financiers de grandes boîtes pharmaceutiques. Et donc, il faut savoir en fait faire la part des choses. Et c'est pour ça que, depuis quelques années, la lutte contre les conflits d'intérêts dans les recommandations internationales, etc., est très intense, même si elle n'est pas parfaite, elle est beaucoup mieux qu'avant. Mais en tout cas, les personnes qui récemment ont utilisé cet argument-là, c'est quand même assez comique, hein, quand on voit leurs conflits d'intérêts. Il faut quand même savoir que l'IHU de Marseille, par exemple, est financé en grande partie par l'argent de boîtes pharmaceutiques comme Sanofi. Donc, bon, c'est assez rigolo d'expliquer que...
C'est pas le cas de tous les instituts de recherche.
Alors, tous les instituts de recherche de gros niveaux ont des financements qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire publics et privés. Ouais, donc, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que la recherche avance, et tant mieux. Mm-hmm. Par contre, tout le monde n'a pas de conflit d'intérêt. Moi, à titre personnel, par exemple, dans la recherche que je fais, je n'ai que des financements publics. Et d'ailleurs, les résultats de ma recherche, sur lesquels je ne reviendrai pas maintenant pendant l'interview, vont plutôt à l'encontre de l'industrie pharmaceutique et l'industrie médicale. Donc, ça va leur faire perdre de l'argent, justement. Donc, moi, là-dessus, je suis assez clair. Je pense que les débats récents, les conflits d'intérêts n'ont rien à voir avec le sujet. Ce sont plutôt des conflits d'intérêts à titre personnel et des conflits de pouvoir.
Mais même dans l'histoire de 2007, il n'y a pas eu de conflits d'intérêts
Si, bien entendu. Dans l'histoire de tous les grands journaux, il y a eu des conflits d'intérêts qui ont influencé parfois
l'étude du Lancet sur l'histoire de l'hydroxychloroquine.
En tout cas, pour l'instant. Bah, en fait, sur l'étude du Lancet, pour être très clair, si on parle que de conflits d'intérêts, quand on regarde les conflits d'intérêts des auteurs, on a du mal à comprendre quel était leur intérêt à dire que l'hydroxychloroquine était un médicament qui était dangereux. après, peut-être, hein, c'est potentiellement, mais en tout cas, ils ont des conflits d'intérêts essentiellement avec des entreprises liées à des médicaments cardiovasculaires. Donc, je ne vois pas très bien quel est leur intérêt là-dedans. Voilà. Bon, en tout cas, l'affaire du Lancet, comme on l'a appelé, c'est en fait tout simplement des chercheurs qui avaient une base de données très importante et qui ont fait des analyses sur cette base de données. Ils n'ont d'ailleurs pas publié dans le Lancet. Hein, ça fait un certain nombre de semaines qu'ils publient dans différents journaux, d'accord, et notamment le New England. On s'est aperçu qu'ils n'avaient pas... on va dire, la possibilité de partager ces données-là avec d'autres reviewers ou des comités indépendants pour vérifier les données. Et donc, à partir du moment où on ne peut pas vérifier la véracité des données, eh bien, c'est bien normal, le Lancet fait son travail et le Lancet rétracte le papier. Donc, en fait, c'est parce que le Lancet est une revue prestigieuse et souhaite le rester, entre guillemets, que cette rétractation a eu lieu.
Pourquoi,
et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux.
Tu dis qu'ils ne peuvent pas donner accès à leurs données?
Après, moi, je ne suis pas dans la confidence de ces gens-là. Ce qui apparemment les empêche de faire ce qu'on appelle du data sharing, c'est-à-dire du partage de données, c'est qu'il y a des conventions entre les différents hôpitaux des pays qui avaient inclus des malades qui empêchent le partage de ces données-là, d'accord, ou alors qui le ralentissent énormément. C'est-à-dire qu'il faudrait 6 mois, 1 an avant d'avoir les autorisations. Et donc, à partir de là, ils ne partagent pas les données. Et donc, voilà. Mais de façon intéressante, ce partage de données devrait être quelque chose de très fréquent, hein, dans la littérature. Ah, c'est oui. D'ailleurs, ça commence à le devenir. On le demande de plus en plus. Probablement, le Lancet, un peu... dans la précipitation, a probablement oublié de vérifier que ce partage de données était possible. Et donc, ils se sont fait un petit peu avoir par cet engouement autour du Covid-19 et de l'hydroxychloroquine.
Et par exemple, si on reparle d'un instant de l'IHU de Marseille et du professeur Raoult qui travaille là-bas, les données de l'IHU, elles sont en data sharing ou pas ?
Pas du tout, elles ne sont pas en data sharing. Et alors pourquoi ? Tout simplement parce que les données qui ont été publiées par l'Institut, l'IHU du professeur Raoult, ont été publiées en fait dans des journaux très 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 médiocres, voire de ce qu'on appelle des journaux de complaisance. Donc des journaux de complaisance, c'est-à-dire quand vous connaissez l'éditeur du journal, eh bien, le reviewing de votre papier, c'est-à-dire l'évaluation de la qualité de votre papier, peut être un petit peu biaisée. Et en l'occurrence, le premier papier qui a été publié, qui est un papier... quand vous êtes chercheur et que vous lisez ce papier-là, il y a certains de mes collègues qui me disent « Même un interne, je ne lui aurais pas permis de passer sa thèse de médecine avec un papier de cette qualité-là. » Donc, c'est un papier d'une qualité extrêmement faible, qui n'apporte rien du tout, malheureusement, au débat, mais qui a fait beaucoup parler et publié dans une revue qui est en fait une revue de complaisance, puisque le professeur Raoult connaissait très très bien les éditeurs de ce journal-là. Et ce n'est pas pour rien en fait qu'il a été publié dans une revue aussi médiocre, c'est parce que les autres revues de qualité ont refusé. Et le professeur Raoult en sait quelque chose, puisque au cours de sa carrière, il a publié dans les plus grandes revues prestigieuses que sont le Lancet, le British Medical Journal, le New England Journal of Medicine, et quand, pendant toute sa carrière, il publiait dans ces grandes revues prestigieuses, il était loin de les critiquer.
Alors, il y a deux sujets assez différents qui se posent maintenant. C'est des questions un petit peu subtiles. Pourquoi, effectivement, un professeur comme le professeur Raoult, tout à coup, se met à publier et à insister à ce point sur un traitement dont... aucune étude scientifique rigoureuse n'a démontré l'efficacité. Ça, c'est la première question. Et puis, il y en a une deuxième qui est assez délicate aussi, qui est cet argument de, à partir du moment où ça ne peut pas faire de mal, autant proposer ça aux patients. Alors, je te propose de passer en revue les deux questions, peut-être commencer par la seconde. Qu'est-ce que tu en penses de cet argument ? À partir du moment où ça ne fait pas de mal, pourquoi on ne leur donne pas ?
Alors, cet argument, il est irrecevable, mais en plus, il est dangereux. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu également dire, écoutez, le médiator... ça fait pas beaucoup d'effets secondaires, en tout cas à l'époque, c'est ce qui avait été avancé. Et vous voyez que maintenant, on est loin de là. Hein. Donc, on aurait pu dire, bah, le médiator, ça ne fait pas beaucoup d'effets secondaires, donc il n'y a pas de problème. On peut le prescrire largement, y compris dans des indications qui ne sont pas les bonnes, c'est-à-dire pour faire perdre du poids aux gens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un scandale sanitaire. Le médiator, c'est une catastrophe. Et c'est une catastrophe parce que, justement, on a considéré que ce type de médicament, enfin un médicament, pouvait être donné sans risque. Mais c'est faux. Et en plus, ce qui est encore plus faux pour l'hydroxychloroquine, et là vraiment il faut connaître la chose, l'hydroxychloroquine, ses effets secondaires sont parfaitement connus. Et dans le dosage que propose l'IHU de Marseille dans la première étude, c'est des dosages très importants, beaucoup plus importants que ce qui est pris habituellement par d'autres malades, en particulier dans la prévention contre le paludisme. Et donc, plus on sait que plus la dose est importante, plus il y a des effets secondaires. Les effets secondaires sont très bien décrits. C'est des effets cardiaques avec des troubles du rythme cardiaque. Et donc, là-dessus, c'est une... En fait, dire ça, pour un scientifique de ce niveau-là, c'est du domaine du mensonge, parce qu'il sait que quand il dit ça, il sait que c'est faux.
Mais alors du coup, c'est ça, on revient à la première question. Ce scientifique, qui n'est pas un perdreau de l'année, qui a eu des prix, qui a publié dans les plus grandes revues, sait que, un, l'argument de la scientificité de ses études ne tient pas la route, et que, deux, l'argument de « ça ne peut pas faire de mal » ne tient pas la route. Et pourtant, il y va.
T'as oui. compris, toi ? Alors, c'est très difficile, en tout cas entre collègues chercheurs, on en a pas mal discuté pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait de sous-jacent. Il m'appartient pas de faire entre guillemets l'analyse psychiatrique de cette personne-là.
Donc on revient au Barina en quelque sorte.
En fait, c'est un retour 50 ans en arrière. Alors que en fait, tout l'intérêt et la progression de la recherche clinique et de la science, c'est justement d'être mis en cause. Et c'est le débat scientifique qui pousse à l'amélioration des pratiques et qui nous pousse à faire mieux. Si quelqu'un avait le pouvoir de connaître la science dans sa totalité et de pouvoir lire dans une boule de cristal, oui, peut-être on lui donnerait tous les pouvoirs et on ne discuterait pas. Mais en l'occurrence, je ne pense pas que cette personne existe pour l'instant. En tout cas, finalement, c'est pas le professeur Raoult.
C'est ça qui est attirant, finalement.
C'est très attirant. En plus, il y a un autre phénomène qui est connu, hein, c'est que quand vous êtes dans une situation de quasi-sidération du fait de la crise sanitaire et que vous avez une personne avec un tel bagout qui vient vous rassurer, parce que finalement, ça vous rassure. Quand on vous dit bah, « ça y est, j'ai trouvé le traitement, tout va bien se passer, vous inquiétez pas, etc. » Eh bien, vous avez tendance à le croire. Et c'est bien normal. Et nous aussi, hein, médecins, quand on a regardé les premiers éléments sur l'hydroxychloroquine, on a souhaité qu'elle soit efficace. On y a presque cru. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on s'est dit tout de suite, c'est attention, nous ne devons pas faire l'erreur d'inonder une population avec ce médicament-là, car si nous nous trompons, les conséquences seront peut-être encore plus graves que les conséquences de la crise sanitaire. Donc, il faut faire attention. Et d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, hein, c'est que beaucoup de pays... ont réagi de manière très sereine par rapport à ça, en interdisant l'utilisation de cette drogue, mais de toutes les autres drogues potentiellement efficaces, c'est-à-dire les drogues qu'on a appelées les drogues candidates, hein, les médicaments candidats à être efficaces. Donc il y en a plein, hein. Il y avait le Caletra, il y avait le Remdesivir, il y avait l'hydroxychloroquine plus ou moins associée à l'azithromycine. Tous ces candidats, dans certains pays, étaient interdits de prescription et il n'y avait que la possibilité de les prescrire dans le cadre de la recherche clinique pour justement avancer au plus vite et apporter des réponses. Et les réponses, on les aura, en tout cas en termes de décès randomisés, en particulier avec des gros essais qui vont venir des Anglais et des Américains, puisque eux n'ont pas fait l'erreur que nous avons fait. Alors, je pense qu'au courant juin, hein, on a déjà eu un résultat d'un essai important sur l'hydroxychloroquine il y a 2 jours. Personne n'en a parlé parce que, bien entendu, tout le monde s'est fixé sur le Lancet. Mais il y a eu un papier qui est sorti donc, avant-hier dans le New England Journal of Medicine sur un essai randomisé en double aveugle avec des niveaux de qualité extrêmement élevés. Hein, c'est ce qui se fait de mieux en termes de recherche clinique. Avec des auteurs qui étaient partis du principe qui testaient l'hypothèse que l'hydroxychloroquine était efficace pour prévenir l'apparition de la maladie quand vous aviez été exposé à un malade de manière très proche du Covid. Et en fait, l'hydroxychloroquine, donc même à ce stade qu'on pourrait appeler le très précoce, puisque vous n'êtes pas encore infecté, c'est pour prévenir l'infection, eh bien là, à ce stade, sur 800 malades randomisés, ça n'a aucune efficacité. Par contre, ça a des effets secondaires notables, puisque plus de 40% des patients qui prenaient de l'hydroxychloroquine avaient la diarrhée ou des vomissements, ce qui, voilà, pour un traitement inefficace, en tout cas pour le cas, est quand même un peu cher payé. Donc, en fait, on commence à avoir des données, les données s'accumulent, et c'est très difficile, vous savez, pour un chercheur qui a affirmé haut et fort qu'il avait raison et que c'était ça qu'il fallait faire, de revenir en arrière en disant « bah écoutez, je me suis trompé, voilà, il y a des données qui maintenant montrent que voilà, c'est pas efficace ou c'est même peut-être dangereux, je ne sais pas ». Ça, il ne le fera jamais, même s'il y a une étude avec 8000 malades qui montre que bien entendu, c'est efficace.
Il va être contraint à continuer à dire il que va être, toutes les autres études, c'est des études de baltringue. Comme
exactement. Il va être contraint de faire ça, il va le faire, il a déjà commencé à le faire. Alors là, bonne pioche sur le Lancet, il avait plutôt raison dans le sens où le Lancet a été rétracté. Donc, mais en fait, pour toutes les autres études, il a tort et il y en a beaucoup. Et le problème, si vous voulez, c'est que plus il va affirmer ce genre de choses, et bien plus il va se radicaliser. Or, nous, les chercheurs humbles, enfin, quand je dis humbles, c'est-à-dire qui n'affirment pas c'est efficace ou c'est inefficace. Hein. Dans mon propos, il n'y a pas c'est efficace ou c'est inefficace. Exactement. Mon seul propos, c'est de défendre la recherche clinique de qualité. Eh bien, nous, si demain, il y avait un essai qui montrait que l'hydroxychloroquine était efficace dans telle indication, nous en serions ravis et ça nous ferait et on n'irait pas le critiquer si l'essai en question ou si l'étude en question est de haute qualité.
Et donc ça effectivement tu parles du point de vue des médecins, des praticiens et des chercheurs. Du point de vue des citoyennes, des citoyens, ce qui est compliqué, c'est que plus ce type de figure apparaît dans les médias, plus il se radicalise, plus il a tendance à surfer sur l'appétence des citoyennes et des citoyens à trouver des solutions, à en plus être dans la théorie du complot. Donc peut-être ce qu'on pourrait donner comme suggestion, là aussi humblement aux citoyennes et aux citoyens, c'est reprendre un peu les différents points que tu as dit. Ce qui peut être intéressant dans la manière dont on construit son point de vue sur ce type de problématique, c'est est-ce qu'il y a eu transparence dans les méthodes, transparence dans les données, partage des données. Est-ce qu'il y a un collectif ou une collectivité de chercheurs qui a un consensus sur les résultats de ces données? Peut-être c'est ça qu'il faut faire quand on exerce son esprit critique, c'est d'aller chercher cette transparence et ce collectif.
Bah exactement. Le collectif, comme tu l'avances, est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, ce qui est assez notable, c'est que la tribune que nous avons signé dans Le Monde avec plus de 1800 chercheurs français de toute la France. Encore une fois, les histoires de Paris, Marseille, tout ça, c'est une vaste blague. Hein. Bien entendu, que vous soyez chercheur à Bordeaux, à Brest, à Paris, n'importe où, quand vous faites bien votre métier, ce que vous avez envie de voir, c'est des études de qualité et que la recherche avance. Hein. Ce n'est pas des questions de conflit entre personnes. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui est la société savante d'infectiologie française, en fait, qui est donc la seule société savante, en tout cas, enfin, la société savante d'infectieux française qui a le plus d'importance, avec tous ses chercheurs, ses médecins, etc., a signé justement cette tribune en disant qu'ils étaient... On va dire, en faveur d'une démarche scientifique de qualité qui ne soit pas basée sur ce qu'on appelle le coup de poker, c'est-à-dire vous dites, j'ai l'impression qu'un médicament est efficace, il faut le donner à toute la population. Faire ça, c'est courir de gros dangers. Donc oui, il faut quand même savoir que nous qui avons un petit peu porté la parole de la recherche de qualité, faire attention, ne pas toujours être humble et toujours dire... il nous faut des études de qualité. On s'est fait menacer sur les réseaux sociaux beaucoup. Alors maintenant, c'est plus compliqué parce que tout le monde parle et donc on parle de manière collective. Donc c'est plus compliqué de nous menacer. Il y a eu même des menaces de mort auprès d'une de nos collègues qui travaille à la Pitié-Salpêtrière. Alors, on arrive à des niveaux de qui sont complètement scandaleux. Hein. Donc voilà, il faut vraiment dans ce domaine-là regarder ce que le collectif apporte comme réponse. Et non pas ce que l'individu apporte comme réponse. Hein, c'est un peu dans la démocratie, ce qui protège la démocratie finalement, c'est un peu le collectif, c'est le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et donc là, le collectif, c'est un contre-pouvoir à une personne qui a pris une place beaucoup trop importante qu'elle n'aurait dû au cours de la crise.
Je te remercie beaucoup Stéphane pour ces éclaircissements, ces éclairages, et puis bonne continuation dans tes propres recherches, dont effectivement on n'a pas eu le temps de discuter aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois,
avec plaisir.
Et puis, bien sûr dans la vie de ton service.
Et merci beaucoup pour l'invitation, et puis à très bientôt.
À très bientôt, salut.
Salut.
Vous venez d'entendre le décryptage précis et circonstancié par le professeur Stéphane Gaudry des nombreuses polémiques qui émaillent l'actualité ces derniers jours quant à la recherche médicale, et plus particulièrement épidémiologique. En contrepoint, je voudrais vous passer un extrait d'une interview du philosophe Tristan Garcia. C'était dans Les chemins de la philosophie, ces derniers jours, une émission de France Culture, que je vous invite à réécouter en entier en podcast. Voilà juste ces quelques mots à propos du professeur Raoult.
Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un individu seul, qui en France c'est le professeur Raoult, qui est en train d'aspirer toute la légitimité d'un champ, ici le champ de l'épidémiologie en France, de sorte que plus personne parmi les épidémiologistes ne va être en mesure d'affronter le professeur Raoult, de lui opposer des arguments qui seront entendus par ceux qui ont décidé d'écouter le professeur Raoult. Donc vous voyez, c'est comme s'il aspirait en fait toute la légitimité, et toute cette légitimité, elle est condensée dans un individu qui en fait est en train de détruire le champ dont il a tiré la légitimité, puisqu'il est en train de détruire toutes les procédures de vérification qui permettaient de rendre légitime le champ de la recherche en épidémiologie. L'espèce de paradoxe, c'est qu'on a un individu seul qui est en train de tirer sa légitimité de la destruction du champ scientifique dont il prétend tirer sa légitimité, puisqu'il va aller sur des plateaux télévisés en se présentant comme médecin, épidémiologiste, dans l'extrait qu'on a entendu,
oui.
Il se présente même comme épistémologue, mais de telle sorte que plus aucun épistémologue ne va pouvoir se présenter face à lui et lui apporter la contradiction. Donc c'est un phénomène contemporain, je pense, sur lequel il faut se pencher, où il y a une lutte en cours qui est, je dirais, cette espèce d'aspiration de la légitimité d'un champ de connaissances, d'un champ d'expertise par un individu qui construit sa légitimité en aspirant la légitimité du champ et en la retournant contre ce champ, en détruisant ce champ. Ce serait la même chose, hein, un philosophe par exemple, et ça existe,
oui.
Qui aspire la légitimité du champ philosophique afin de se présenter comme philosophe, d'être reconnu comme le seul vrai philosophe par ceux qui vont l'écouter, afin de se retourner contre la philosophie telle qu'elle se fait, tous les philosophes qui n'ont rien compris, qui sont éloignés de la vie, qui sont éloignés de la réalité, de la société. Et donc, ça, c'est un phénomène...
Je sais pas comment, ça, ce que vous décrivez.
Ça n'a pas de nom,
ça porte
mais
pas de
je
nom.
Vois pas d'autre ouais. image. Vous voyez que cette idée d'aspiration, un individu seul qui aspire la légitimité d'un champ de recherche, d'un champ scientifique, et qui l'utilise ensuite pour détruire ce champ.
Voilà, c'était Tristan Garcia, le philosophe, sur France Culture il y a quelques jours. On se retrouve dans un instant avec Tom le fact-checker.
The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. His voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over. Broke a minute later. And he put his hand on mine. Thought I saw an eagle, but it might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not
hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision, and you never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. I lay upon a mountain, and my father's hand was trembling with the beauty of the word. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.
Vous êtes toujours dans la fabrique politique et c'est l'heure de la chronique de Tom le fact-checker. Alors Tom, comme avec les autres invités, on se tourne de plus en plus vers la suite, vers le monde d'après. Déjà, salut, ça va ?
Ouais, ça va très bien, oui. Et déconfiné, heureux.
Et attentif à notre avenir à tous.
Attentif à notre avenir à tous. Et oui, du coup, j'ai fait une chronique un peu tournée vers l'avenir. Ouais. Sur un événement que tu as forcément vu passer il y a une quinzaine de jours, le 18 mai exactement, Macron et Merkel ont proposé dans une allocation commune un plan inédit de 500 milliards de dettes européennes. Ouais. Et je voulais revenir sur cet événement qui peut paraître un peu technique, un peu anodin, mais je voulais vraiment essayer d'insister sur le fait que moi, je le trouve vraiment fondateur, en fait, hein, s'il doit se confirmer. Voilà. Alors, en quoi ce plan, il est original, au sens où il apporte du changement, c'est que, voilà, contrairement à des choses qui ont été menées jusqu'à maintenant ou des plans qui avaient déjà été annoncés pour pallier à la crise du coronavirus, des plans de rachat de dette des pays européens, des choses qu'on voit depuis 2008. Là, il s'agit bien d'une dette mutualisée, c'est-à-dire que c'est un projet de dette, donc où c'est l'Union européenne elle-même qui emprunterait en son nom auprès des marchés européens, et ça serait des fonds derrière qui seraient redistribués vers les États qui en ont le plus besoin, sans contrepartie, donc ce ne serait pas des prêts, mais sous forme, quelque part, un peu de financement direct. Voilà.
Alors justement, juste un point pour bien comprendre, Tom, par rapport au fait que ce soit nouveau. Parce que j'ai lu effectivement plusieurs articles récemment sur le fait qu'on dit « ça y est, c'est reparti », comme lors de la crise 2008-2009, les États sauvent les banques et rachètent les dettes. Et finalement, ce qu'il y a derrière tous ces milliards, ce n'est qu'un plan de plus pour sauver le capitalisme et pour sauver les établissements bancaires. Toi, ce que tu dis, c'est que là, c'est différent ?
Alors, il y a des deux, en fait, hein, dans le plan. D'accord. Qui a été annoncé. D'abord, à la fois, il y avait l'Union européenne a continué son achat des dettes européennes, des différents pays, pardon, hein, qui avaient été mis en place depuis la crise de 2008. C'est-à-dire que, voilà, les taux, hein, ce qu'on appelle le spread, les taux d'emprunt de chaque pays est différent en fonction de la santé financière estimée par les marchés. Et donc, par exemple, l'Italie, qui est très endettée, va emprunter plus cher que l'Allemagne sur les marchés. Donc, pour pallier à ce phénomène un peu vicieux qui fait que plus l'État est dans la merde, plus il va devoir payer cher son financement, depuis 2008, l'Union européenne rachète directement la dette de ses États, c'est-à-dire qu'en fait, elle finance la dette, par exemple, italienne au meilleur taux de l'Europe, c'est-à-dire le taux allemand, voilà, pour permettre à l'Italie de se financer quasiment à taux zéro. Mais là encore, ce n'est que quelque part un prêt que l'Union européenne faisait à ces pays. Là, on a un mécanisme qui est complètement nouveau. On ne serait pas dans le cadre d'un prêt que ferait l'Union européenne aux différents États. On serait vraiment sur de la dette mutualisée, hein, c'est-à-dire que cette dette, elle serait financée par des fonds propres, des ressources propres à l'Union européenne, et elle serait redistribuée aux États par subvention directe. Encore une fois, ce ne serait pas des prêts que l'Union européenne ferait à l'Italie, mais ça serait de l'investissement direct sans contrepartie.
Alors, qu'est-ce que ça a de différent de ce qu'on appelle les fonds structurels européens ou de la PAC, c'est-à-dire bah, l'argent effectivement, qui est donné par les pays membres et qui ensuite est redistribué bah, pour la PAC sous forme de subventions aux agriculteurs, pour le Fonds social européen, pour des programmes d'insertion économique. Qu'est-ce qui est différent de ces fonds structurels-là?
Alors, en termes de financement, pas grand-chose, hein, puisqu'on est sur le même principe hein, de solidarité, donc sur des critères qui seraient là peut-être un peu différents, spécifiques, hein, mais comme tu dis, on a la PAC pour l'agriculture, les fonds structurels européens pour financer la mise à niveau des pays d'Europe de l'Est, en tout cas, qui a été mise en place dans ce but-là. Donc, en termes de redistribution, ça serait pas très différent.
D'accord.
Mais là vraiment, la différence, c'est qu'aujourd'hui, cet argent qui est distribué par l'Union européenne, elle vient d'une contribution des différents États. Oui. Alors que là, on est vraiment dans un financement qui est propre à l'Union européenne, qui est recherché directement sur les marchés financiers. Alors, je voulais faire un parallèle en fait, avec l'histoire américaine hein, pour essayer de montrer à quel point cette question de la dette et de la mutualisation de la dette, elle est essentielle à la construction des États. Donc, en revenant, ça te dit, hein, Matt, un petit peu d'histoire?
Ah, carrément, moi, je suis toujours friand d'histoire. J'ai toujours un petit regret de mes cours d'histoire du lycée, donc tu peux y aller avec plaisir.
Très bien. En revenant en fait, 200 ans en arrière, au tout début de la création des États-Unis, et même avant, hein, lorsque les 13 colonies se sont révoltées contre la couronne anglaise, pour des questions d'impôts, hein, puisque l'Angleterre était en guerre à cette époque et du coup avait une dette importante, elle avait besoin de lever des impôts. Et donc, elle en a levé à ces colonies très riches des États-Unis qui se sont révoltées. Et au cours de cette guerre américaine, les 13 colonies se sont associées à ce qui a servi de première constitution qu'on a appelé les articles de la Confédération, en 1781, donc la guerre n'était pas finie, et qui était un traité, hein, une constitution, où les États ont fait vœu d'alliance irréversible, si tu veux. Hein. Les 13 colonies donc, se sont associées, une communauté de destin, et elles ont donc conduit à la création d'un petit État fédéral hein, qui était chargé quand même de coordonner cette alliance, qui avait notamment des prérogatives en termes de guerre, en termes de politique étrangère, en termes de politique monétaire, encore une fois, mais qui n'avait pas ni ressources propres, ni dettes propres. D'accord ? Mm-hmm. Tous les financements de ce petit État fédéral venaient directement des 13 colonies, des 13 États indépendants, qui avaient aussi leur propre constitution. Et du coup, cette première constitution américaine, elle ne marchait pas du tout, puisqu'on retrouve beaucoup de points communs avec l'état actuel un petit peu de l'Union européenne. Toutes les décisions devaient être prises à l'unanimité. Et puis rapidement, chacun des 13 États tirait la couverture en son sens. Chacun voyait d'abord son intérêt premier plutôt que l'intérêt de l'ensemble. Et du coup, l'État fédéral n'ayant ni ressources propres, ni possibilité de réguler en fait, le fonctionnement des 13 colonies, n'arrivait pas à avoir pied sur ça. Et okay. Du coup, on arrive à une deuxième date sur les trois dates que j'ai mentionnées qui est essentielle pour la construction américaine, donc c'est 1787, où du coup, pour pallier à ces dysfonctionnements de ces articles de la Confédération, les États se sont remis au travail et ont donc pensé ce qui est devenu la Constitution américaine, donc qui a été votée en 1787, et derrière qui a mis 3 ans pour être ratifiée, et qui a voté le renforcement de l'État fédéral pour parer à l'individualisme des États.
Okay.
Et donc, cet État fédéral a eu le droit, derrière, d'avoir des ressources propres et à lever des dettes en son nom. Voilà. Okay. Donc, on est un petit peu, tu vois, dans le moment qu'on est en train de vivre un peu en Europe. Mais rapidement, les partisans de l'État fédéral, hein, le premier gouvernement qui était sous l'égide du président Washington, ont compris que ça n'allait pas assez loin. Et donc, il y a eu un débat hein, entre dans l'équipe gouvernementale entre les gens qu'on appelait les fédéralistes, hein, l'idée par un certain Alexander Hamilton, qui était pour que l'État fédéral assume les dettes des États fédérés, hein, puisque encore une fois, on était sur la fin de la guerre de l'indépendance. Les États étaient très endettés et du coup, on avait des situations très diverses dans les États, avec donc des États très endettés qui ont dû lever des impôts, ce qui a généré des révoltes à tel point que des troubles majeurs, à tel point que ça menaçait l'équilibre global de ces petits nouveaux États-Unis. Et donc, les premiers fédéralistes étaient pour le renforcement de l'État fédéral et pour que cet État fédéral assume les dettes des États fédérés. Et en face de ça, il y avait les démocrates, l'idée par Thomas Jefferson, qui étaient, eux, pour non, un État fédéral, ça va être dangereux. La dette, de toute façon, c'est pas bon parce que ça sert à enrichir les puissants. Et puis globalement, l'État fédéral va à l'encontre des libertés individuelles qu'on a si chèrement acquis lors de la date d'indépendance. Donc, il y a vraiment eu comme ça quelque chose de fondateur un petit peu dans la politique américaine où ces deux camps se sont dressés les uns contre les autres. Et ce qui arrivait à un compromis qu'on appelait le moment hamiltonien où démocrates et fédéralistes se sont mis d'accord et à la suite de quoi l'État fédéral a assumé l'ensemble des dettes précédentes des différents États. Voilà.
Donc, c'est Hamilton qui l'a emporté finalement.
C'est Hamilton qui l'a remporté. Alors, pour la petite histoire, Jefferson a négocié. Le compromis a été acquis en faisant que la capitale Washington soit dans l'État de Virginie, qui était l'État de Jefferson.
Ah, donc, oui.
Jefferson n'a pas tout perdu. Mm-hmm. Et également, il a mis un amendement dans la Constitution américaine qui a instauré que l'État fédéral devait avoir un budget équilibré aussi hein, pour ménager ses partisans. Mais on retrouve, tu vois, ces trois dates où on a eu d'abord une communauté de destin qui s'est créée, une deuxième date où on a un État fédéral qui a pu se doter de ressources propres, d'accord, et d'indépendance financière vis-à-vis de ses membres, et une troisième date où là, c'est la bascule complète vers les États-Unis fédérés, l'Union fédérale telle qu'on la connaît aujourd'hui aux États-Unis, où il n'y a plus de dettes, de différents États, toute la dette est centralisée au niveau fédéral. Voilà.
Ça, on n'y est pas encore, on est d'accord sur l'Union européenne.
Non, alors ce moment hamiltonien, on n'est pas encore. Là, on est un peu dans cette phase 2, une phase 2 qui peut paraître surprenante par rapport à des discours de plusieurs pays européens, notamment l'Allemagne. Hein. On peut se demander pourquoi l'Allemagne a changé de pied. Comme pour les États-Unis, qui étaient dans le contexte de la guerre, d'endettement très fort et de troubles à l'ordre public, Angela Merkel, le 18 mai, elle a donné la réponse. Elle a dit « l'Allemagne ne va bien que si l'Union européenne va bien ». L'Allemagne a constaté, comme nous tous, que l'Italie, l'Espagne continuent dans cette direction d'être très endettées, on va tout droit vers possiblement des défauts, voire pire, des troubles publics, puisque les gens ne se sentiraient pas protégés par leur État.
Ce que tu veux dire, c'est que la crise du Covid et plus globalement la multiplication des crises type celle qu'on a connue en 2008-2009, maintenant celle du Covid et peut-être d'autres qui viendraient, pourraient donner l'occasion de passer cette fameuse troisième étape qu'ont connue les États-Unis au moment où, tout à coup, il n'y a plus de dette de chacune des nations, mais la grande dette commune de la Fédération européenne. Tu penses que ça peut arriver ?
la deuxième étape, déjà, hein, c'est déjà, clair que, il n'empêche que c'est clair que ces crises, hein, comme la guerre à l'époque des États-Unis, elles servent de catalyseur, en fait, hein, pour ce genre d'avancée structurelle, hein, vraiment sur le fonctionnement. Et donc là, alors c'est pas encore gagné, hein, puisque là encore, comme aux États-Unis à l'époque, hein, on est dans un processus où pour les questions de budget, on doit avoir l'unanimité des États membres. Hein,
mais ça veut dire que le plan des 500 milliards dont on parle aujourd'hui, c'est pas encore fait, ça. C'est juste, c'est qu'une proposition.
Voilà, c'est qu'une proposition, mais voilà, ne soyons pas dupes. L'Union et l'Allemagne et la France pour annoncer un tel plan ont quand même réussi à déjà obtenir un large consensus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 4 pays qui sont un peu réfractaires, les Pays-Bas, l'Autriche et le Danemark et la Suède, qui voudraient, alors non pas que l'Union européenne ne lève pas de la dette auprès de marchés financiers, mais qui voudraient plus, eux, que l'argent distribué ne soit que sous forme de prêts et non pas de subventions. Mmh. Donc, on reste à avoir un débat. Hein. D'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je voulais parler cette chronique, de ce sujet dans cette chronique, c'est parce qu'on arrive dans ce temps-là. Hein. On a le prochain sommet européen qui est le 19 juin. L'Allemagne et la France ont annoncé qu'avant le début de l'été, et donc idéalement pour ce sommet européen, ce sujet devait être décidé, hein, entre les différents pays. Donc, il y a une grosse pression. C'est vraiment en ce moment que ça se joue.
Eh bien, on verra. En tout cas, on verra déjà si effectivement l'Europe met le pied dans la porte, par exemple, à l'occasion du 19 juin, et ce que ça donnera dans les années à venir. En tout cas, ça nous donne une perspective qui est un petit peu moins sombre que celle qu'on entend depuis 3 mois. Donc, je te remercie beaucoup, Tom, pour cet éclairage. Et puis, ce petit rappel historique qui me fait chaud au cœur.
Je t'en prie. J'essaierai d'en mettre un lors de ma prochaine chronique si je vois que ça te fait autant plaisir.
Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, à bientôt.
Salut, Matt.
Ciao.
Good to see you again. There's a few outstanding charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, oh, just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay? You and your guests have a pleasant stay. What a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island. Don't be alarmed, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the 7th time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my life.